RCF.
Gotta sweet like an angel, gotta clean up good. Gotta sweet like an angel, up upon the mountain.
Bienvenue sur RCF Radio Maglone dans Écho Protestant. Nous recevons aujourd'hui quelqu'un qui vient d'obtenir son master pro en théologie protestante et qui commence son ministère pastoral dans l'église protestante unie de Montpellier et agglomération, plus spécifiquement à Jacou, où se trouve d'ailleurs un centre œcuménique. Il s'agit d'Emeline Daudet. Bonjour Emeline.
Bonjour James.
Nous nous réjouissons de faire votre rencontre aujourd'hui pour mieux vous connaître, c'est évident, mais puis aussi pour savoir à quelle sauce nous allons être mangés dans cette agglomération. Et donc, Emeline, tout d'abord, bienvenue. On se réjouit de vous compter dans l'équipe pastorale avec Luc-Olivier Bossé et Solange Weiss. Vous êtes pasteur désormais en pleine situation de responsabilité, mais avant cela, vous avez eu déjà une carrière professionnelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Mais tout à fait. Avant cela, en fait, j'étais ingénieur en informatique et management. Parce que du coup, la théologie ne sont pas mes premières études, ce qui est aujourd'hui plutôt l'usage. J'ai fait mes études à Cergy-Pontoise, en région parisienne, et j'ai exercé surtout à Paris et à l'international, avec différents postes. Voilà, j'ai un peu picoré, je suis allée un peu voir dans différents types d'entreprises, de secteurs, pour ensuite changer de cap.
Alors, évidemment, on ne peut pas éviter de se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'on puisse passer de ce poste d'ingénierie à la faculté de théologie protestante? Qu'est-ce qui attire?
En fait, c'est mes deux amours depuis le début. C'est-à-dire que quand j'étais au lycée, j'aimais autant la philosophie, la théologie que les maths et l'informatique. Et puis, au moment du bac, on se pose la question de l'orientation. Et certains pasteurs m'ont conseillé d'aller apprendre un métier, d'aller voir dans le monde, et que si vraiment c'était ma vocation d'être pasteur, ben ça reviendrait. Et finalement,
Ça n'a pas manqué.
C'est revenu sur le tapis avec un bon choc, un bon burn-out, comme pareil, une grande partie des trentenaires y ont droit aujourd'hui. Un burn-out, plusieurs décès de familiaux coup sur coup, ont remis la question du sens de la vie et du travail au centre de mes préoccupations.
Et du coup, la théologie était le bon moyen d'aborder la question du sens et puis peut-être de trouver aussi une nouvelle perspective ?
Eh bien, c'était déjà là. J'avais déjà commencé un cours à la fac juste pour voir. Voilà. On ne sait jamais, ça peut être intéressant, comme on dit. Et puis, ces questions de sens m'ont finalement amené à réfléchir à qu'est-ce qui est important pour moi. Est-ce que c'est mon travail, ma carrière, ce qui était le cas depuis 10 ans déjà, ou est-ce que c'est les relations humaines, une recherche de sens et de construction tous ensemble. Et finalement, c'est cette deuxième question-là qui était la plus importante. Et à la faculté, la diversité des étudiants et des parcours m'aidait beaucoup à réfléchir, à tâtonner et à avancer sur ce cheminement-là.
Donc, pluralité des relations, enrichissement personnel, et puis quand même quelques disciplines à travailler. Enfin, c'est quand même un métier aussi, pasteur, donc il faut bien se former avec des matières très spécifiques. Est-ce que vous avez eu une appétence en particulier pour un des départements de la théologie, peut-être ce département dans lequel vous avez fait votre mémoire de master ?
J'ai beaucoup aimé en fait le Nouveau Testament, les approches historico-critiques, les approches sociologiques, cette réflexion de remise en contexte, et puis l'éthique. Et étonnamment ou pas, finalement, j'ai allié ces deux domaines-là dans mon mémoire, qui est donc le mémoire qu'on doit rendre en fin de Master 1 maintenant.
Bah, il faut que vous nous en parliez un peu plus de ce master. Il portait sur quoi ?
Alors, c'était sur un commentaire de l'Épître aux Romains, à partir des thèses du pragmatisme, et notamment de John Dewey, un philosophe états-unien. On connaît beaucoup le pragmatisme par la psychologie des religions. Et aux États-Unis, en fait, on connaît le pragmatisme par les sciences de l'éducation, notamment, et la sociologie. Voilà, donc je me suis allée chercher ces thèses-là et voir qu'est-ce qu'on pourrait en faire si, avec ce prisme-là, on relisait l'Épître aux Romains. Et j'ai travaillé donc sur une grande partie de l'Épître, et peut-être que le Master 2 me permettra de, un jour, finir ce commentaire avec les derniers chapitres, pour voir si la thèse tient jusqu'au bout.
Très bien, d'autant que quand vous parlez de thèse, c'est aussi une tradition sur Montpellier de se lancer dans des thèses, donc n'hésitez pas, on vous encouragera pour cela. Donc, vous travaillez sur cette approche un peu pragmatique, et puis vous vous destinez aussi au ministère pastoral. Ça signifie que l'an dernier, vous êtes dans la situation de faire un stage d'une année avec un pasteur, vous êtes dans la région de Nîmes. On connaît un peu le principe avec François Bergougnon, qui est intervenu régulièrement à cette antenne. Quelles étaient les dominantes, en quelque sorte, qui ont conduit votre année un peu compliquée du fait du confinement, etc.
Alors, du fait du confinement, en effet, la dominante que j'avais au début a été un peu bouleversée. Et finalement, le pragmatisme n'était pas vraiment très loin, puisque j'y ai beaucoup réfléchi et on a œuvré tous ensemble à comment faire communauté. Malgré justement c'est le confinement, les portes fermées, communauté à travers Internet, à travers la radio, mais aussi les échanges et comment l'innovation locale ou hyper locale dans les rues et les quartiers pouvait amener l'Église sur toute la ville à innover aussi. Voilà.
Alors justement, peut-être que cela vaut la peine d'expliciter un peu plus ce concept de pragmatisme. Souvent, on associe le pragmatisme et les actes, le fait de ne pas rester simplement aux belles idées, aux grands discours, mais de pouvoir incarner cela. Est-ce que c'est justement cette logique d'incarnation qui préside à votre pensée pragmatique dans le cadre de l'Église ?
Tout à fait. L'idée, c'est vraiment apprendre et innover par l'expérience. C'est ce que Dewey a appliqué après sur ses théories de l'éducation. C'est faire l'expérience, en tirer les conclusions et voir ce qu'on en fait après. En individuel, en petit groupe, en grand groupe, et après avec un principe très démocratique, mais qui n'est pas conclu par des votes majoritaires, mais vraiment un consensus, donc c'est toujours dans le dialogue, avancer comme ça par itération, petit à petit.
Un vrai travail de fourmi.
Exactement. Tout à fait.
Donc une méthode plutôt inductive qui prend au sérieux en fait ce que les uns et les autres expérimentent dans leur quotidien et puis faire rentrer cela en dialogue avec peut-être les textes bibliques, la tradition de l'Église et puis aussi les directives d'un conseil de secteur, d'un conseil presbytéral.
Oui, tout à fait. Et puis c'est toujours pareil, la question de l'incarnation n'est pas très loin. C'est aussi accepter que la réalité et ce qui fait vérité pour l'un n'est pas forcément la même chose pour l'autre. Mais respecter ces différences et essayer d'écouter, échanger. Et donc forcément, dans ces cas-là, on arrive à une certaine diversité qu'on apprécie beaucoup dans l'Église protestante unie, au final.
Et donc une vérité qui ne s'impose pas d'en haut, ce qui laisserait entendre que vous n'avez pas une conception du ministère pastoral comme le dépositaire de la vérité à laquelle tout le monde doit se conformer.
Exactement. C'est plutôt, finalement, le travailleur de l'ombre qui aide les uns et les autres à cheminer, à s'exprimer, pour qu'après, quand justement ce ministre part plus loin, puisqu'il ne fait que passer, la communauté puisse continuer à vivre d'elle-même.
Très bien, alors nous allons nous octroyer une première pause musicale avec Tom Petty and the Heartbreakers, et nous aurons ensuite la possibilité de voir si vos rêves se concrétisent ou s'ils se cognent contre le réel.
Trees went by, me and Dell were singing.
RCF Radio Maglone dans l'émission Éco-Protestant. Nous recevons aujourd'hui Emeline Daudet, tout nouvellement nommée pasteur à Jacou, dans l'agglomération de Montpellier. Nous avons eu l'occasion d'aborder toute la phase préliminaire, à savoir carrière professionnelle, études de théologie, stage à Nîmes. Et puis, vous voici maintenant en situation de pleine responsabilité depuis le 1er juillet. Alors évidemment, c'est pas une période de grande activité. En plus, avec le confinement, on a eu tendance à en faire encore moins que les années précédentes. Mais j'imagine que vous avez eu l'occasion de commencer à entrer dans le bain et à voir les premières surprises. Quelles sont ces premières surprises, les choses un peu inattendues que vous découvrez ?
Le plus inattendu pour moi, finalement, c'est la grandeur du territoire, enfin du secteur en l'occurrence.
Qui s'étend de où à où pour aider nos auditeurs à s'y retrouver ?
Eh bien, c'est un peu compliqué. Ça dépend en fait des familles qui viennent toquer à la porte du centre œcuménique.
Mais justement, cette complexité est intéressante. Ça veut dire qu'on n'est pas sur un secteur géographique bien déterminé ?
On est plutôt sur le nord de l'agglomération. Et tous les villages aux alentours. Après,
allez, on va voir si vous en connaissez déjà quelques noms.
Bon, il y a Castelnau, évidemment, il y a Jacou, il y a Le Crès. On va jusqu'à Saint-Géniès-des-Mourgues, si je prononce bien, Castries. On va descendre même jusqu'à Mougio de l'autre côté. Voilà.
Oui, c'est intéressant de voir que c'est quand même plutôt un arc. Hein.
Exactement. Oui.
Et puis il y a quelques paroissiens de l'agglomération qui sont sur Castelnau-le-Lez et qui, en fait, vont au temple de Maglone en centre-ville aussi.
Oui.
Et j'imagine qu'il doit y avoir aussi le phénomène inverse.
Oui, voilà. On ne demande pas le lieu d'habitation à l'entrée des temples. C'est le principe du protestantisme aussi. Chacun est libre d'aller où il veut. Mais voilà, mon secteur, il est plutôt nord. Et comme tu disais, c'est vraiment un arc autour de l'agglomération. Et après, voilà, chacun voit. J'ai des paroissiens qui sont à Saint-Jean-de-Véga qui viennent jusqu'au centre œcuménique, ce qui fait long comme route, mais c'est leur choix.
Est-ce qu'on a un peu une idée de la fourchette de temps ? C'est-à-dire, il y a ceux qui habitent à côté qui vont mettre 3 minutes à pied, et puis les paroissiens les plus éloignés mettront combien de temps en transport, en commun ou en voiture pour rejoindre Jacou ?
Je pense que les plus éloignés, ils sont sur 30 à 40 minutes de voiture. Et ça, justement, en termes de surprise, c'en est une parce que on pense pas communauté et animation de vie d'église, pareil quand on a des paroissiens qui font 40 minutes de voiture, que quand on est finalement en ville, en centre-ville, où tout le monde est à côté.
Oui, oui, effectivement, la surprise est par rapport à une ville en agglomération, parce qu'il y a aussi quelques paroisses dans notre hexagone qui couvre tout un département, par exemple.
Tout à fait.
Et là, les territoires sont immenses, pour ne pas dire infinis. Combien de lieux de culte sur ce secteur ?
2. Alors, le centre œcuménique à Jacou, en effet, et puis le temple à Mogio. Voilà, donc aujourd'hui, c'est 2.
Avec des rythmes de culte différents ?
Oui, alors à Jacou, ça va être tous les dimanches matin, et à Mogio, c'est...
Allez-y, faites un peu de publicité, c'est à quelle heure le dimanche matin ? Et donnez-nous l'adresse !
Alors, c'est à 10h30, exactement. Et l'adresse, j'ai le trou de mémoire, je ne vais pas pouvoir te la donner.
Ce serait pas avenue Johann Sébastien Bach par hasard ?
Si, voilà, bien. Tout à fait. Puis enfin, elle est à un angle, mais c'est une bonne idée.
Puis c'est un grand bâtiment.
C'est à 5 minutes à pied du terminus du tram du T2.
Voilà. Donc c'est extrêmement facile de s'y rendre.
Oui, et extrêmement facile de s'y garer, puisqu'il y a un magnifique parking.
Gratuit,
qui est tout autour.
Voilà, et si jamais vous trompez de sens dans le tramway, vous descendrez à Saint-Roch et puis vous irez au temple de la rue Maglone. C'est pas si grave que ça. Au moins, pour l'instant-là, vous n'êtes pas au café. Bien. Donc, première surprise, l'étendue, avec quand même une concentration des lieux de culte, parce que si le temple de Mogio a un culte un samedi soir par mois et le temple de Jacou tous les dimanches matins, on voit que quand même le centre de gravité est plutôt sur Jacou, ce qui fait quand même une sorte de cohérence pour l'ensemble des activités.
Oui.
Il n'y a pas une grosse dispersion finalement.
Non, en effet. Après, la question c'est justement, par exemple, dans quelle mesure on va pouvoir mettre en place des groupes de maisons ? Ce qui s'était fait pour justement éviter ces 40 minutes de voiture à chaque fois qu'on veut faire une activité qui serait au centre œcuménique. Donc regrouper village par village. La question s'était posée, on va la rediscuter tous ensemble. Parce que justement, ça peut valoir le coup, d'autant plus aujourd'hui où nos assemblées sont limitées en nombre. Et là, on trouverait peut-être une solution intermédiaire en temps de transport et en nombre de personnes.
Et puis, c'est une réalité qui existe déjà à travers l'agglomération, et notamment du côté de Saint-Jean-de-Védas, il y a aussi des groupes qui existent. Ça signifie que vous avez à la fois le souci de la communauté largement rassemblée, et puis en même temps, j'allais dire, de la micro-église, de la relation quasiment interpersonnelle. Il y a aussi un enjeu sur ces rencontres en petits groupes.
Oui. Pour moi, l'église et sa communauté, c'est un peu comme être à la maison. Et donc il y a les temps où il y a les grands repas partagés, où on a cette joie de se retrouver et en même temps aborder les discussions sérieuses ou les discussions de fond ou personnelles peuvent être compliquées. Et c'est pour ça qu'il faut aussi prévoir ces temps-là en petits groupes, voire même interpersonnels, pour échanger et laisser cette place-là à ces discussions. Donc c'est vraiment trouver un équilibre entre les deux, entre cette fête, cette joie de se retrouver et ce temps de discussion en tête-à-tête.
Alors, premier étonnement, donc, l'étendue. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous surprennent un peu une fois qu'on découvre cette église montpelliéraine ?
La grandeur de l'église sur toute l'agglomération, la diversité des activités, la complexité de l'organisation, où je sens que, et c'est normal, j'ai pas tout saisi encore et je vais mettre un bon moment à saisir. Et puis, je ne cesse toujours de m'étonner par les usages réformés, voire même locaux, qu'il peut y avoir, que je ne connaissais pas ou que j'avais oublié, tout simplement.
Donc, usages réformés et peut-être locaux aussi, ça signifie que vous avez, dans notre communion luthéro-réformée, aussi un centre de gravité qui irait du côté de la spiritualité luthérienne, par exemple ?
Bien vu, tout à fait. Oui, en fait, toute...
Alors, racontez-nous ça un peu.
Ah, oh, j'ai grandi dans le bain réformé et un petit peu pentecôtiste quand même, mais toute ma foi d'adulte en fait et ma pratique a été fait côté luthérien.
À Paris,
voilà. Donc avec une tendance un peu catholicisante aussi, qui a pétri aussi ma théologie, ma façon de percevoir les choses. Alors de temps en temps, en effet, j'oublie ou je suis étonnée par l'importance d'un geste ou l'importance de l'absence d'un geste dans nos communautés ici à Montpellier.
Est-ce que vous pouvez juste nous dire en quelques phrases justement quelle serait cette couleur catholique qui peut irradier votre pratique luthérienne, hein, vous dites un peu catholicisante.
Oui, parce que dans le luthéranisme, c'est un peu comme chez les anglicans, finalement, il y a une tendance, c'est une via media, donc parfois on va pencher un peu côté catholique, parfois un peu côté protestant, protestant réformé. Et je pense que pour ce qui me concerne, ça va être plus l'utilisation du corps dans la liturgie, dans la prière. Voilà, faire un signe de croix ne me dérange absolument pas. J'y trouve un sens. M'agenouiller dans certaines prières pourrait l'être aussi. L'utilisation d'images et de symboles aussi, comme support de réflexion. Voilà, avoir des icônes à la maison, oui, j'en ai. En mettre dans un temple, ça, voilà, je ne crierai pas.
Très bien.
Tout va bien.
Parfait. Bon, nous allons nous octroyer une petite pause pour que je me remette de mes émotions. Et on se retrouve immédiatement après un nouveau passage de Tom Petty. And I sommes sur RCF Maglonero, l'émission Éco-Protestant. Nous recevons Emeline Daudet qui vient d'être nommée pasteur à Jacou dans l'agglomération Montpellier-Rennes. Vous avez certainement, en arrivant dans cette paroisse, Emeline, des envies, des projets, le souci de faire profiter cette communauté de ce que vous êtes, de ce que vous avez réfléchi et de ce que vous ambitionnez aussi pour l'Église en général. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, justement, peut-être par rapport au pragmatisme ou d'autres sujets qui vous tiennent à cœur, quelles seraient les choses que vous aimeriez essayer ?
Ce que j'aimerais essayer avant tout, c'est initier en fait cette envie, cette impétence d'aller témoigner de ce que l'on est et de ce que l'on croit dans le monde. Alors pas de le faire en criant « repentissez-vous, la Bible à la main, dans la rue », c'est pas du tout ça ma façon de voir les choses, mais c'est finalement repartir au basique, par le bouche à oreille, le témoignage, inviter... Et puis aussi découvrir à quel point notre monde cherche du sens. Et à quel point, par exemple, même un film au cinéma qu'on pourrait classer comme étant un film pour ados ou pour enfants, pose ces questions-là de sens et a aussi des références bibliques. Voilà, mon idée, c'est d'aller là-dedans. C'est de
repartir de la culture contemporaine et de pouvoir l'interroger avec un regard théologique, avec notre outillage, en fait.
Oui, et puis c'est aussi oser intervenir dans les débats publics en disant, avec notre façon de voir les choses, on aimerait bien lancer telle ou telle activité, voir les choses du point de vue politique et social en mettant l'humain au centre, ce que certaines politiques parfois oublient à mon sens. Voilà, c'est aussi ça. C'est arrêter peut-être de dissocier le fait d'être d'un côté citoyen et de l'autre côté chrétien. Et se dire, on est à la fois les deux, alors soyons à la fois les deux, dans les deux mondes.
Ce qui évidemment est un peu plus difficile de nos jours, alors qu'il y a beaucoup de défenseurs de la laïcité qui disent qu'il doit y avoir une sorte d'étanchéité entre le domaine public et puis toutes les affaires religieuses qui ne doivent pas être simplement privées, mais quasiment confidentielles, ramenées à l'intime le plus strict.
Oui. Et en même temps, peut-on vraiment dissocier tout ce qui fait un seul et unique être ?
Oui, c'est ça. La question, c'est pouvons-nous continuer à être des êtres fragmentés ?
Exactement.
Vous commenciez par parler de la question du témoignage. On pourrait dire quasiment ressusciter la capacité de nos paroissiens à témoigner. L'apôtre parlerait de rendre compte de son espérance. Pragmatiquement, comment on s'y prend pour faire en sorte que nous devenions une église de témoins ? Est-ce que vous avez des idées à ce sujet ?
J'ai pas de solution toute faite.
Non, mais peut-être que des idées, des choses qui mériteraient d'être essayées.
Eh bien, j'ai envie de dire, rien que déjà autour de la table ou autour d'un verre avec ses amis, qui ne sont pas ceux de l'église, oser dire, moi le dimanche matin, je vais au temple. Rien que ça. On n'imagine pas le nombre de questions qui est posé à ce moment-là.
Oui, une fois qu'on a dit ça, de toute façon on est foutu et les questions arrivent.
Exactement.
Et donc on se trouve en situation...
de devoir y répondre. Et là, c'est la deuxième étape. C'est oser se dire, moi, même si je ne suis pas pasteur, même si je ne suis pas théologien ou théologienne, je peux donner une réponse. C'est ce qu'un paroissien disait, moi je ne sais pas, mais je crois, et tout ce que je peux dire, c'est que je crois à ça. Et là, il y a une discussion vraiment qui s'engage. Ça serait la deuxième étape. Puis la troisième étape, pourquoi pas, soyons fous. C'est de sortir de nos temples ou ouvrir les portes du temple pour que ceux qui sont à l'extérieur puissent rentrer et puis initier vraiment un dialogue, une discussion, que ce soit pas quelque chose où il faut avoir déjà les codes et déjà une initiation théologique ou biblique pour comprendre ce qui s'y passe.
Oui, c'est certainement cela d'ailleurs le plus difficile, parce que si on prend le projet de vie de l'Église protestante à Montpellier, il y a déjà inscrit noir sur blanc l'idée de la porosité entre l'Église et la cité, c'est-à-dire tel que c'est formulé, l'idée selon laquelle l'Église doit être poreuse aux questions contemporaines, aux questions qui se posent en dehors de ses murs. Toute la question est comment engager un dialogue qui ne soit pas un dialogue de sourds, au sens où nous avons des convictions, un vocabulaire, des phrases toutes faites que nous aimons asséner. Quelle est la place que nous faisons à l'autre ? Comment
Exactement.
Est-ce qu'on se remet soi-même en question, un peu dans la logique que vous indiquiez au départ ? Les gens ont des expériences, et c'est ces expériences qui vont être prises au sérieux et qui vont peut-être changer un peu la donne.
Oui, et puis c'est retrouver aussi une des fondations du protestantisme qui est se réformer sans cesse. Pour accepter de se réformer, il faut accepter d'avoir un regard critique sur ce qu'on est, sur ce qu'on dit, sur ce qu'on fait. Pour avoir ce regard critique, il faut accepter la critique. Et donc du coup, il faut entendre ce que l'autre a à dire sur nous-mêmes et sur notre façon de faire. Donc du coup, on ne peut pas creuser de tranchées, on ne peut pas dire c'est comme ça et c'est pas autrement. On est obligé de rentrer dans le dialogue.
Et à une guerre de mouvement.
Et à partir du moment où il y a le dialogue, il y a toujours du mouvement, en effet.
Alors, pour l'instant, le culte reste l'activité principale dans les différents secteurs de notre Église. J'ai cru comprendre que vous y investissiez tout particulièrement. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelle est du coup la fonction du culte dans ce dispositif de dialogue avec la cité ? Parce qu'on a toujours l'idée que le culte, c'est une sorte de rituel qui ne concerne que les initiés. Si vous souhaitez être ouvert et en dialogue avec la cité, j'imagine qu'il doit y avoir des ajustements à faire aussi pour le culte.
Il y a des ajustements à faire. Après, on verra avec la communauté.
Bien sûr.
Évidemment. Mais le premier ajustement, finalement, c'est de se poser la question. Ce que je disais tout à l'heure, c'est le culte, c'est se retrouver tous ensemble à la maison, autour de la table, en se disant « chouette, on s'est retrouvés ». Et pourquoi on se dit « chouette, on s'est retrouvés » ? Et c'est là la question du sens. Le culte, il est aussi là pour rappeler pourquoi on se retrouve dans cet endroit particulier. Et la prédication est peut-être aussi là pour rappeler ça et pour interpeller sur le monde. C'est très intéressant parce qu'en protestantisme, on aime beaucoup la prédication, quitte parfois à oublier tout le reste de la liturgie. Et souvent, quand on invite quelqu'un qui n'a aucune culture religieuse, c'est la prédication qui l'intéresse et c'est le regard qu'on porte sur le monde dans le cadre de cette prédication-là. Et donc là, il y a une porosité, il y aurait un échange à travailler. Le reste, c'est de la pédagogie.
Vous voulez dire le reste du culte, la liturgie
ou, exactement.
Parce que c'est souvent incompréhensible.
Tout à fait.
Se lève, on s'assoit, un vocabulaire qui est complètement déconnecté, on parle de choses qui semblent assez surnaturelles. Est-ce qu'il y a quand même des ajustements à faire où on se dit, bah, après tout, c'est le folklore et puis on le garde tel quel ?
Il y aurait certainement le langage, il y aurait certainement les cantiques à réfléchir. Après, je pense que c'est un échange aussi. Le culte et la liturgie, c'est aussi revivre ce temps de conversion, finalement. Mais il faut l'expliquer. Après, l'équilibre va être sur réexpliquer dimanche après dimanche les choses en se disant il y aura toujours potentiellement quelqu'un qui va venir pour la première fois et ne pas réexpliquer parce qu'on aura toujours quelqu'un qui vient depuis la centième fois et qui n'aura peut-être marre qu'on lui explique pourquoi il faut se lever, pourquoi il faut s'asseoir, pourquoi on va chanter ça ou pourquoi on va prier à ce moment-là.
Mais toujours avec les étapes liturgiques qui scandent le culte finalement. C'est-à-dire qu'on garde une ossature, un squelette, et puis on explique pourquoi ces étapes et on essaie de les rendre aussi fidèles que possible à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui.
Alors il y aurait plein de débats, mais pour moi ça fait partie justement de cette expérience de vivre étape par étape, refaire ce schéma de conversion, et parce que c'est une liturgie et un schéma qu'on va retrouver ailleurs dans d'autres églises aussi.
Très bien, nous voici lancés sur votre chemin et ça sera un synode très heureux, j'en suis sûr. Merci beaucoup Emeline. Et puis nous vous retrouvons le 20 septembre, c'est votre culte d'accueil au Temple de Maglone et puis régulièrement au Centre œcuménique de Jacou. Bon ministère.
Merci beaucoup James.
Au revoir.
Au revoir. She can't no sing, Bob. She can't no stop. But she sure does look good. And she moves so fast. But the guy in danger, yeah, the guy in change.